France Inter.
Bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus dans Grand Bien Vous Fasse Weekend et ce matin un nouveau club de lecture, des livres qui font du bien, qui agissent comme des baumes, des refuges pour traverser une actualité morose, des livres à déguster par temps gris avec un bon plaid et une bonne tasse de thé ou de chocolat chaud. Nos prescripteurs ce matin, les journalistes Christina Pelledouel et Christine Ferniaud, le libraire Théodore Dillerin et l'autrice Adeline Baldacchino. Je les imagine en héros de romans d'Alexandre Dumas, Edmond Dantès et Milady de Winter, Thibaut de Saint-Maurice et Guillemette d'Issino. Bonjour Thibaut, chercheur en philosophie. Quel est le menu de votre chronique, les punchlines de la philo?
Bonjour Ali, et bien ce matin on part du côté de la Renaissance italienne avec une formule de Machiavel. Il est beaucoup plus sûr d'être craint que d'être aimé.
Bonjour Guillemette.
Bonjour, j'espère que je finirai pas comme Milady.
Un chef de rubrique cinéma à Télérama, quel sera votre ordonnance de cinéthérapie cette semaine?
Eh bien écoutez Ali, j'aime l'Amérique. Enfin ça dépend. Enfin justement, je vais vous dire avec qui j'aime l'Amérique.
A tout à l'heure, bienvenue dans Grand Bien Vous Fasse Weekend, l'émission qui donne du sens à votre vie quotidienne.
France Inter. Grand Bien Vous Fasse. Ali Rebbi.
Il n'y a pas de texte littéraire qui me fasse autant frémir que La princesse de Clèves de Madame de Lafayette. Bon, l'argument de La princesse de Clèves, c'est une histoire d'amour qui n'aboutit pas. De cette situation qui pourrait être vécue comme juste une situation désespérante et stérile, Madame de Lafayette tire le roman qui, pour moi, suscite le plus d'effets amoureux au monde. Donc on en sort absolument électrisé. Je ne sais pas combien de fois j'ai lu La princesse de Clèves. De toute façon, il n'a pas mon record, puisque mon record, c'est Les jeunes filles de Monterland, que j'ai lu plus de 100 fois. Et sinon, il y a Stendhal, La chartreuse de Parme, que j'ai lu 64 fois, et je vais certainement continuer. Mais à force de l'avoir lu 64 fois, brusquement, je me suis sentie un désir de lire Le rouge et le noir.
Amélie Nothomb, en 2020, dans une vidéo, combinez-vous aussi, vous avez lu La chartreuse de Parme 64 fois, Guillemette.
Non, mais en revanche, Les jeunes filles de Monterland, je ne les ai pas terminées, si vous voyez ce que je veux dire.
Voilà. Bonjour Christina Pelledouel.
Bonjour Ali.
Vous êtes journaliste, conférencière, autrice de ces livres qui nous font du bien, publiés chez Marabout. Bonjour Christine Ferniaud.
Bonjour Ali.
Alias Princesse Christine, journaliste à Libé Polar sur libé.fr et conférencière. Bonjour Théodore Dillerin.
Bonjour Ali.
Vous êtes libraire au comptoir des mots à Paris, dans le 20e arrondissement, métro Gambetta. Vous êtes spécialiste du polar sous toutes ses formes. Bonjour Adeline Baldacchino.
Bonjour Ali.
Autrice, poétesse, membre du jury du prix Apollinaire, mais également magistrate. À la Cour des comptes, on vous doit notamment Fragments de mémoire, Voyage à Auschwitz-Birkenau, publié chez Flammarion. Allez, j'aimerais qu'on commence avec des livres de poche que vous aimez offrir autour de vous. Alors, Théodore Dillerin, Plaisir d'offrir, en ce moment, Ultramarin, de Mariette Navarro, chez Kidam Éditeur, dans la collection Les Nomades. Mariette Navarro, écrivaine et dramaturge française, née en 1980. Pourquoi ce choix ?
Oui, absolument. Parce que c'est un livre que j'aime beaucoup offrir autour de moi depuis qu'il est sorti en poche il y a 2 ou 3 ans. Alors, c'est un petit format à 8 euros et c'est un concentré de poésie absolument dingue. Imaginez une femme, capitaine de navire, c'était une évidence pour elle parce que son père l'était auparavant. Elle est en train de traverser l'Atlantique sur un énorme cargo, ils sont à des milliers de kilomètres de la première côte, et elle a 20 bonhommes sous ses ordres. Et son second, celui qui arrive juste après elle dans l'ordre hiérarchique, a l'audace de lui demander une chose assez folle, de faire une pause, parce que les gars ont envie de se baigner. Et elle va accepter. Alors le bateau va sortir des radars, ils vont descendre une petite barque, les 20 gars vont aller se baigner, et là vous avez une description absolument folle de ce que ça représente d'être au milieu de nulle part, d'avoir des kilomètres d'eau sous vos pieds, etc. Et elle est sur le pont, elle les observe, et à un moment, il faut siffler la fin de la récréation. Alors les gars remontent sur le petit navire pour rejoindre le gros bateau, mais avant ça, ils se comptent. Ils étaient 20 à descendre pour cette récréation, et au moment où ils se comptent, 15... 16, 17, 18, 19, 20, 21. Tac. Et je vous en dis pas plus, oh là évidemment. Là. Si ce n'est qu'il ne faut pas chercher une explication rationnelle à cela, parce que c'est la poésie, Mariette Navarro, c'est le grain de sable qui s'immisce dans un engrenage parfaitement huilé. quelque chose qui arrive qui n'aurait pas dû arriver, et voilà.
Pourquoi vous aimez l'offrir, ce livre, ce ultramarin de Mariette Navarro ?
Parce que c'est une porte ouverte à la poésie et ça fait un bien fou dans ce monde anxiogène dans lequel on vit. Et ça donne envie d'aller se baigner en plus. La Rochelle me manque, j'ai besoin de retrouver mon océan parfois, donc allez hop.
Ultramarin de Mariette Navarro, c'est chez Kidam, éditeur dans la collection Les Nomades. Christilla Pelledouel, le poche cher à votre cœur en ce moment, c'est Lettre à une noire de François Zéga chez Folio. François Zéga, né à la Martinique en 1920 et décédé à Marseille en 1976.
Une femme incroyable, une femme extraordinaire, donc qui est venue en métropole pour travailler. Elle était assistante de direction et puis elle est venue en France avec son mari, ses enfants, etc. à Marseille. Et elle avait plein de relations d'antillaises justement autour d'elle à Marseille et qui travaillait comme domestique chez les bourgeois de Marseille. Et là, peu à peu, elle découvre un univers d'exploitation, de néocolonialisme, ou de colonialisme tout court d'ailleurs, puisqu'on est dans les années 60, absolument épouvantable. Et elle décide de faire une chose extraordinaire, elle décide d'arrêter et de se faire engager comme domestique pour voir de l'intérieur comment ça se passe. Et elle écrit son journal. Alors c'est formidable parce qu'elle mêle à la fois sa vie, ses interrogations, ses rencontres avec ses femmes et elle se pose évidemment la question de savoir mais que faire et comment faire. Et peu à peu, elle se forge une conscience politique et elle décide, enfin elle fonde peu à peu, on peut appeler ça une résistance avant que ça devienne plus structuré dans un mouvement syndical. C'est absolument formidable, ce livre, c'est plein d'humour, elle est incroyable, plein de réflexions sur des tas de choses, sur les vêtements, sur les cheveux, sur la manière quand même dont ces femmes sont traitées. Elle raconte en particulier qu'à un moment donné, elle fait 15 fois pour aller nettoyer une terrasse, il n'y a pas d'eau sur la terrasse, elle fait 15 fois au moins l'aller-retour du 5e étage, du 4e étage jusqu'à la terrasse pour prendre des seaux d'eau. Donc vous imaginez le poids, etc. Et puis évidemment les petites humiliations ou la fausse compréhension. Mais toi qui viens des îles, tu connais si bien la musique. Enfin voilà, vous voyez ce genre de choses. Et c'est formidable. Et Daniel Pénac, alors ce qu'il faut que je vous dise, c'est que Françoise Ega, dite Mame apostrophe Ega, est devenue vraiment une héroïne, qu'il y a une place dans Paris qui porte son nom, dans le 13e arrondissement, je crois, et que Daniel Pénac a écrit la préface parce que, alors je ne sais pas s'il l'a croisée, il me semble que oui, il me semble qu'il l'a rencontrée, cette femme est morte maintenant, mais elle a laissé une trace extraordinaire, et en particulier donc, dans cette communauté, mais pas que.
Merci de nous faire connaître. Donc, Françoise Ega, Lettre à une noire, c'est publié en poche chez Folio. Un autre Folio, Christine Ferniaud, à s'offrir ou à offrir, c'est Les Derniers Indiens de Marie-Hélène Lafont. Marie-Hélène Lafont, née en 1962 à Aurillac, dans le Cantal, prix Goncourt de la Nouvelle en 2016 et prix Renaudot en 2020.
Alors, je vous emmène effectivement chez Marie-Hélène Lafont en Auvergne, dans le Cantal. Elle fait toujours un peu le même livre, en quelque sorte, mais c'est un compliment. On a les pieds dans la terre et on est avec les Santoirs. Les Santoirs, ils sont frères et sœurs, ils sont pas mariés, ils n'ont pas d'enfants, il y aura pas de Santoirs après eux. Et rien ne bouge dans la maison. Elle, depuis que les parents sont morts, elle porte les vêtements de la mère parce que rien ne se perd. Lui, il n'aime pas qu'on change le moindre meuble, qu'on achète quoi que ce soit. Et en face, il y a les voisins. Et les voisins sont des gens vivants. Les voisins vivent en tribu, dit-elle. Alors, pendant que les Santoirs se disent « Pourquoi ouvrir une fenêtre et ouvrir les volets quand on ne s'en sert pas ?» Les voisins, eh bien, ils vivent, ils reçoivent, ils accueillent. Et puis même, ils voudraient aller voir les Santoirs. Et dans ces deux maisons face à face, eh bien, c'est comme si deux mondes étaient face à face. Les Santoirs, c'est la fin du monde, un monde paysan. Ils vont disparaître, ils vont vers le rien, Marie et Jean. Et c'est ce silence et en même temps cette rage intérieure que Marie-Hélène Lafont raconte comme ça. Comme elle dit, elle ramonne. Ah. Je trouve l'expression formidable. Ils ont le cœur sec, le corps sec, ils sont en train de renoncer. Et ce livre est splendide. Alors, je ne sais pas si en sortant, on se sent vraiment mieux. J'avoue, mais c'est tellement beau et l'écriture est tellement belle et la poésie de Marie-Hélène Lafon sur les petites choses, c'est tellement extraordinaire que ces derniers Indiens, moi, je l'ai relu et elle vient de publier Hors Champ chez Buchet-Chastel. Et en fait, c'est aussi la même histoire. C'est la fin d'une paysannerie et c'est extrêmement émouvant. C'est très, très beau.
Christina, vous me parlez souvent de Marie-Hélène Lafon.
Oui, qui est vraiment une grande écrivaine. Hein, une grande écrivaine. Et plus ça va, plus elle écrit. Alors, elle parle toujours du Cantal. Hein. Ça, c'est voilà, du côté d'Aurillac, un coin que je connais bien et qui n'est pas spécialement rigolo, je peux vous le dire, mais qui
Alors,
est d'une beauté.
Les personnes
d'une
qui
beauté.
Nous écoutent depuis Aurillac, le courrier, c'est pour Christina.
C'est Christina, moi j'ai rien dit.
J'ai dit juste que c'était pas spécialement rigolo, mais j'ai ajouté derrière que c'était très beau, donc l'un n'est pas incompatible avec l'autre. Mais simplement, l'écriture de Marie-Hélène Lafon va au fur et à mesure de ses publications, vers une épure extraordinaire. Et elle est vraiment, elle s'en réclame, hein, de la classe et d'un mouvement qu'on peut qualifier de littéraire, bien qu'il le soit, enfin que ça ne soit pas vraiment un mouvement, de Pierre Michon. Voilà, Pierre Michon et Pierre Bergougnou, c'est de cette qualité-là d'écriture.
C'est la même
cette
famille-là. Effectivement.
Les Derniers Indiens de Marie-Hélène Lafon, c'est à lire en folio, Adeline Baldacchino, Dans vos poches, Les mots étaient des loups, poème choisi de Vénus Kourigata, dans la collection poésie de la NRF chez Gallimard. Vénus Kourigata, poétesse franco-libanaise, née en 1937 au Liban, est morte récemment, le 28 janvier dernier à Paris. Elle avait reçu le prix Goncourt de la poésie en 2011, Vénus Kourigata, et ce beau titre, Les mots étaient des loups.
Oui, alors, elle a disparu il y a quelques jours, en effet. Alors, ça m'a donné envie de me replonger dans la bibliothèque, dans ses œuvres qu'on trouve. Elle a écrit des romans, mais elle a écrit beaucoup, une quarantaine de recueils qui ont été traduits en 15 langues. C'est vraiment devenu, de son vivant, une classique de la poésie contemporaine. Elle avait fui le Liban en 1972. Alors, c'est une œuvre qui est marquée, clairement, qui est marquée par la guerre, qui est marquée par l'exil, qui est marquée par le rapport à deux langues. Elle disait qu'elle avait toujours essayé de donner au vers ou à la phrase française le rythme et la forme de la langue arabe, même si c'était en fait une mission impossible, et qu'elle passait son temps à venir taper contre des frontières qu'elle traversait, mais qui étaient invisibles, mais qui pour elle étaient extrêmement sensibles. Et c'est une poésie, alors c'est une poésie qui n'est pas nécessairement une poésie facile. On peut mettre du temps à y entrer, mais je pense qu'il faut l'aborder. Donc justement, par ce recueil, Les mots étaient des loups, ou par Jean Delot, qui est un très très beau recueil aussi, il faut se laisser aller au rythme de cette langue et à ses images. C'est une poésie qui est pleine de métaphores, souvent liées à des transformations entre le minéral, le végétal, l'humain, un peu comme celle de Supervielle. Elle avait eu d'ailleurs le prix Supervielle. Jules Supervielle, qui aimait beaucoup comme ça, partant en fait d'un mot de vocabulaire, transformer quelque chose qui était à la fois de l'ordre de l'image, puis de la pensée. Elle tourne autour de quelque chose qui est parfois insaisissable. Quand on l'a croisée, moi je me souviens l'avoir une fois invitée comme ça à une rencontre autour de sa poésie, et on pensait beaucoup à cette phrase d'Henri Calais, vous savez, ne me secouez pas, je suis plein de larmes. Parce qu'elle avait cette fragilité, à la fois ce côté très grande dame, et en fait une vraie fragilité intérieure où elle était au bord des larmes dès qu'elle entrait dans la mécanique des textes et de ce qui avait pu les justifier. Et bon, j'avais envie simplement de vous en dire quelques vers d'un des poèmes de ce recueil. Elle entre dans les rêves de ses voisins sans frapper, leur emprunte des allumettes, un œuf, un chat, fait main basse sur leurs souvenirs qui se connaissent depuis l'enfance, sur leurs mots quotidiens qu'elle met ensemble pour mieux les connaître, puis cherche la sortie dans le noir, sa voix ayant soufflé la lampe.
Moi, je suis ravi d'entendre Adeline parler de Vénus Kourigata, qui est aussi une poétesse que j'aime beaucoup et qui nous a quittés récemment. Et moi, ça m'a donné envie de remettre le nez dans Jean Delot, et j'ai retrouvé ces quelques vers que j'avais soulignés et qui traitent de l'exil dont tu parlais, mais aussi de ce minéral. Inutile de demander l'aide du soleil qui rit d'un œil et pleure de l'autre, ou l'intervention du vent qui se prend pour une foule depuis qu'il hurle dans tous les interstices. Inutile de refaire les mêmes enfants avec la même argile s'ils ne savent pas pleurer. Et ça illustre exactement ce que tu viens de dire, et c'est un bel hommage que tu lui rends, merci.
Et moi je tombe sur ces vers de Vénus Kurigata, les mots volent aveugles dans les ténèbres, luciole tournoyant sur elle-même, caillou dans la poche du mort distrait, projectile contre le mur du cimetière, il se disloque en alphabet, mange une terre différente dans chaque continent. Bah, merci de nous avoir fait découvrir Vénus. Ouais, c'est très beau. Vénus Kurigata. C'est en poche dans la collection Poésie de la NRF chez Gallimard. Et ça s'appelle Les mots étaient des loups. Et si vous n'avez pas eu le temps de noter le titre des livres, la sélection est disponible sur l'appli Radio France et sur la page Facebook de Grand Bien Vous Fasse. Allez, il est déjà l'heure de retrouver la docteure Guillemette Audicino et sa cinéthérapie.
France Inter.
Les films sont plus harmonieux que la vie, Alphonse. Il n'y a pas d'embouteillage dans les films, il n'y a pas de temps mort.
Grand Bien Vous Fasse.
Au cinéma, c'est comme ça et pas autrement.
Alors, cher Ali, vous avez regardé le show de Bad Bunny au Super Bowl?
À votre avis. À votre avis.
Ouais. Alors, Donald Trump y a vu, je cite, un affront à la grandeur de l'Amérique et des danses dégoûtantes. MDR, alors MDR de ouf, tu m'étonnes qu'il soit devenu tout rouge, Donald, puisque l'artiste portoricain, qui une semaine plus tôt avait appelé à mettre ICE out, donc la police anti-immigration dehors, a livré une performance quasiment entièrement en espagnol, célébrée la culture latino et la beauté de l'unité américaine. Il faut qu'un type originaire des Caraïbes rappelle les bases de la démocratie américaine. Comme en son temps, le Jamaïcain Harry Belafonte luttait pour les droits civiques. J'en arrive au sujet de cette chronique qui peut se résumer en un cri. « I love you, Mark ». L'acteur Mark Ruffalo, lui, est d'origine italienne par son père et franco-canadienne par sa mère. « Ti amo, Mark. Je t'aime, Mark ».
On a compris.
Ouais, ouais, mais on sait jamais. Et donc, I love you because... because you are. Because à la cérémonie des Golden Globes, il portait le pins Be Good en l'honneur de René Nicole Good, abattu par un agent de l'ICE, et en soutien, je cite, aux personnes aux États-Unis qui sont terrorisées et effrayées aujourd'hui. Et sur le tapis rouge, il n'a pas eu peur d'ouvrir sa si belle bouche pour régler son compte à Trump. Il dit au monde que le droit international ne compte pas pour lui. La seule chose qui compte pour lui, c'est sa propre moralité, mais le type est un criminel condamné. C'est le pire être humain au monde. Si nous nous fions à la moralité de ce type pour le pays le plus puissant du monde, alors nous sommes tous dans de beaux draps. Et il a ajouté « Ce que je vois se produire ici n'est pas l'Amérique ». Voilà, allez, ça c'est fait. L'Amérique qu'on aime justement parle à travers la filmographie de cet acteur engagé. Il se croit dans les années 70 et il a tourné dans deux merveilleux films dossiers qui résonnent bien avec le cloaque actuel. Nous avons d'abord Spotlight de Tom McCarthy, déjà un classique, qui retrace de manière passionnante l'enquête d'une cellule du Boston Globe sur le scandale de pédophilie dans l'église catholique américaine.
Vous croyez que votre journal a les reins assez solides pour s'y attaquer ? Oui, je le crois. Et vous ?
Un prêtre de Boston a abusé d'enfants dans 6 paroisses différentes ces 30 dernières années. Les autorités de l'église l'ont appris et n'ont rien fait. On n'a jamais mobilisé de ressources d'investigation à long terme sur cette affaire.
Non, jamais.
Et c'est le genre de choses que votre équipe ferait ?
Spotlight ?
6% passe à l'acte.
6%, ça fait 90 prêtres.
Si on avait autant de ces enfoirés, vous pensez bien que ça se saurait.
Peut-être que ça se sait.
Et ils ont laissé faire! Ça aurait pu être toi, ça aurait pu être moi, ou n'importe quel d'entre nous!
Et Mark Ruffalo est formidable dans ce film, formidable.
Et oui, c'est lui qu'on entend crier là, dans cet extrait. Oui, Ali, dans le blouson d'un journaliste tenace, on dirait qu'il joue sa vie. Cela, ça se voit à l'écran qu'il est du côté des victimes et ne peut supporter les mensonges du pouvoir. Mark est aussi un écolo de la première heure, et évidemment, il fut rôle principal et producteur de Dark Waters, le grand film d'enquête et de procès de Todd Haynes, qui relate l'histoire vraie de l'avocat Robert Bilott, seul contre la multinationale chimique Dupont et ses pratiques toxiques.
Votre grand-mère m'a dit que son petit-fils était avocat à Cincinnati, spécialisé dans l'environnement.
Je crois que vous n'avez pas compris. Je suis avocat d'affaires, donc je défends les entreprises de chimie.
Bah, maintenant, vous allez me défendre.
Vous en avez perdu combien ?
190.
Vous avez perdu 190 vaches.
Vous allez pas me dire que c'est normal, vous aussi.
C'est juste une petite affaire pour un ami de la famille. Et au moins, on aura aidé quelqu'un.
Le fermier ou toi?
C'est les produits chimiques qui font ça.
Je comprends pas tout dans leurs archives. On nous cache des choses. Ce produit chimique, ça ferait quoi si on en buvait?
En boire? C'est comme de demander, et si j'avale un pneu, c'est grave?
Imaginons que ce qui fait mourir toutes ces vaches, c'est quelque chose qui est dans l'eau du robinet.
Si vous avez aimé Erin Brockovich, oui, je vais encore rire, oui, je sais. Vous allez être happé par ce thriller paranoïaque avec, certes, un Mark Ruffalo moins sexy dentelle que Julia Roberts, mais tout aussi admirable en David contre Goliath. Dans deux semaines, Mark débutera un tournage sous la direction de Bertrand Bonello. Puis, il reprendra le rôle de Hulk. Oui. Non, mais sérieux, il y a tout. Marc est un géant vert qui aime la France. Moi, je dis Ruffalo, président.
Oui. Sur Christine Vernius, sur Spotlight.
Ah, moi, j'adore ce film. C'est les grands films américains, Les Hommes du Président, toute cette génération comme ça. On va dénoncer, et c'est du cinéma.
Le rappel de votre cinéthérapie, Guillemette Odissino.
Spotlight et Dark Waters et I Love Mark.
La cinéthérapie à podcaster et à partager sur l'appli Radio France. Tiens, j'en profite pour vous inviter à candidater au prix du Livre Inter sous l'égide de la Queen Eva Bettan et du président du jury, le prix Goncourt 2025 Laurent Mauvignier. N'hésitez pas à écrire une lettre de motivation avant le 16 mars à 23h59 sur l'appli et le site de France Inter, où vous pouvez écrire avec votre jolie plume à France Inter, 116 avenue du président Kennedy, 75 220 Paris Cedex. Allez, on continue notre sélection de livres qui font du bien, juste après avoir écouté Anna Karina, Roller Girl, une chanson sortie en 1967. Anna Karina interprétée Roller Girl.
Ah, Fitzgerald.
France Inter.
Bon, là, il se trouve que c'est un texte que je n'ai pas lu. Je me tuerais pour vous, mais je dois dire qu'un tel titre donne déjà très envie.
Grand bien vous fasse, Ali Rebéi.
Et dans Grand bien vous fasse week-end, c'est le club de lecture de février avec les journalistes Christine Ferniaud et Christy Pelédouel, avec le libraire Théodore Dillerin et l'autrice Adeline Baldacchino. Noé Brabant est allé demander un conseil de lecture pour la Saint-Valentin à la librairie Le Comptoir des mots à Paris.
L'anthologie des poésies érotiques du 15e au 20e siècle. Et je trouve que pour la Saint-Valentin, c'est un cadeau absolument approprié. Alors vous avez tous les grands auteurs dont on ne soupçonne pas forcément qu'ils aient pu également écrire des choses parfois très brûlantes et en même temps très belles.
Je recommanderais Le Petit Prince de Saint-Exupéry. Pour moi, c'est un classique indémodable, qui parle d'amour certes, de l'amour avec un grand A, mais de l'amour de soi aussi, de la découverte. Donc je pense qu'on peut le lire à tout moment et la Saint-Valentin s'y prête particulièrement à mon avis.
Evan Frome d'Edith Wharton, qui est vraiment un très très beau roman, un peu gothique, une histoire d'amour voilà, qui finit mal malheureusement, mais qui est vraiment très très belle.
Les BD de Margot Motin et son histoire avec Paco, qui lui aussi fait des BD. C'est très chouette, deux artistes amoureux depuis des années et on voit tout ça à travers des dessins et des textes qui sont légers, chouettes et agréables.
Alors le livre à offrir à la personne que vous aimez, c'est bien évidemment le recueil de Neruda, La Centaine d'Amour. C'est quoi ? C'est trois parties, matin, midi, soir, qui reprennent les trois étapes de la vie et c'est 100 poèmes à la femme qu'il aime. Trois petits vers pour vous donner envie. Je t'aime sans savoir comment, ni quand, ni d'où. Je t'aime sans détour, sans orgueil, sans problème. Je t'aime ainsi, je ne sais aimer autrement.
Théodore Dillerin, on vient de vous entendre dans votre librairie Le Comptoir des mots. Vous pouvez développer sur La Centaine d'Amour de Neruda chez Gallimard.
Eh bien oui, donc c'est publié dans la collection Poésie de la NRF chez Gallimard. C'est 100 poèmes, 100 sonnets même plus précisément, qu'il dédie à la femme qu'il aime. Et j'ai rien d'autre à dire, si ce n'est que je vais vous donner un de mes petits conseils de libraire parfois quand on me demande des livres d'amour. Juste, je prends Neruda, j'ouvre, je sais vers quel poème aller et je me mets à les déclamer dans la librairie et j'en vends trois d'un coup aux gens qui ont les oreilles qui traînent.
Une belle technique de vente, c'est très bien.
Ouais. Et donc parmi mes préférés, il y a celui que je cite à Noé, je vais vous en lire un autre, c'est le 90. Donc là, on est dans la troisième partie, le soir, la fin de la vie. Et donc le sonnet 90, c'est celui-ci. « J'ai cru mourir et j'ai senti le froid de près. De ce que j'ai vécu, je ne laissais que toi. » Ta bouche était mon jour et ma nuit de la terre, et ta peau le pays fondé par mes baisers. Alors en cet instant s'achevèrent les livres, l'amitié, les trésors accumulés sans trêve, la maison transparente édifiée par nous deux. Tout cessa d'exister, tout, excepté tes yeux. Car l'amour, alors que la vie nous persécute, n'est qu'une haute vague entre toutes les vagues, mais hélas, quand la mort vient frapper à la porte, il n'est que ton regard pour s'opposer au vide, en face du non-être, il n'est que ta clarté, il n'est que ton amour pour refermer la nuit.
Et vous imaginez, Guillemette, si c'est Marc Ruffalo qui vous déclamait ce
verre-là ? Alors, Alice, c'est incroyable, c'était exactement ce que j'étais en train de me dire, et j'étais en train de couler littéralement de ma chaise.
Et, cette édition étant la version bilingue, on peut même imaginer Bad Bunny qui te les lit en espagnol. La traduction est de Jean Marcenac et André Bonhomme, et une fois qu'on a lu ça, il n'y a pas besoin d'en dire davantage pour avoir envie d'offrir un livre à la personne qu'on aime.
La Centaine d'Amour de Neruda. Est-ce que vous avez d'autres livres d'amour à conseiller en cette veille de Saint Valentin, Christina Pelédoël?
Oh oui, alors je vais être rapide, mais un magnifique livre qui a été publié il y a déjà un moment chez Métellier. Un auteur écossais méconnu, ou inconnu carrément en France, mais qui en Écosse est un des plus grands vénérés par les Écossais. C'est Lewis Grassic Gibbon, et il a écrit un livre qui s'appelle Sunset Song, qui se passe au moment de la guerre de 14, et c'est le récit mais d'une beauté et d'une poésie extraordinaire, avec des descriptions des paysages écossais, d'un amour fracassé par la guerre entre une jeune femme, alors c'est dans un milieu agricole, une jeune femme et son mari qui part au front, et pendant plusieurs années, il n'est pas là, et il revient, il est méconnaissable. Et pourtant, elle l'aime d'un amour inaltérable.
Aline Valdacchino, un conseil ?
Ouais, alors moi j'aurais sans doute parlé aussi de Neruda, parce que c'est extraordinaire, mais dans une veine du coup un peu différente, si on veut un essai, qu'on a envie d'un truc un peu plus intello, mais extraordinaire, La Flamme Double d'Octavio Paz, sous-titré Amour et érotisme, c'est son dernier essai, ça date de 93, traduction Claude Esteban, et c'est une réflexion sur l'évolution du rapport au désir, à la sexualité, au corps, et en même temps à la rébellion politique, à travers les différents continents. Alors il a cette phrase extraordinaire, le sexe est la racine, l'érotisme est la tige et l'amour la fleur. Et le fruit ? Les fruits de l'amour sont intangibles, c'est là une de ses énigmes.
Le titre ?
C'est La Flamme Double, Amour et érotisme chez Gallimard.
Christine Ferniaud.
Alors là, moi, je ne suis pas là avec la retraite sentimentale de Colette dans le moment de la vibration, mais plutôt de l'éternité de l'amour. Elle a l'héroïne depuis 2 ans, son amour est mort et elle reçoit ses amis et la journée est joyeuse et puis tout le monde s'en va. Et quand tout le monde s'en va, les bêtes reviennent parce qu'on est chez Colette quand même, donc les chats, les chiens et elle écrit ça, elle écrit « Venez mes bêtes, nous sommes seuls à jamais, venez ». Nous laisserons la porte ouverte pour que la nuit puisse entrer et son parfum de gardénia invisible. Et la chauve-souris, et le crapaud humble. Et aussi, celui qui ne me quitte pas, qui veille sur le reste de ma vie, et pour qui je garde, sans dormir, mes paupières fermées, afin de le mieux voir. Eh ben moi, je finis une phrase comme ça, je suis déjà en larmes.
Oui, on sent votre émotion.
C'est la retraite sentimentale de Colette, c'est en poche partout, c'est un livre... Le mot résilience est épouvantable, donc on ne le prononcera pas. Mais c'est un livre qui est bouleversant.
Guillemette.
D'abord, je voudrais dire que tous ces merveilleuses personnes autour de cette table qui aiment les livres savent aussi particulièrement bien lire. Hein. Vous avez vu comme vous lisez bien, c'est bouleversant chaque fois que vous ouvrez la bouche. Bon. Et j'aimerais dire aussi qu'il faut lire La Dame aux Camélias, étrangement, d'Alexandre Dumas-Fils, parce que d'abord, c'est court, ça plaira à tout le monde. Je connais un trentenaire qui vient de le lire.
Votre fils.
Oh, il va encore m'engueuler.
Dénoncer.
Mais en tous les cas, il a été complètement, en fait, séduit par ce livre dont il aurait pu penser, avec tant de dentelles et de maladies pulmonaires, qu'il était cucu. Eh bien, pas du tout, ça reste un grand livre.
Christine Fernieu, vous avez choisi un auteur français que j'aime beaucoup, trop discret sur la scène littéraire et qui mérite davantage de lumière, c'est Dominique Fabre. Dominique Fabre qui publie « La jeunesse est un cœur qui bat », publié chez Arléa.
Ah, ça me fait plaisir que vous y disiez ça, Ali, parce qu'effectivement, je trouve que c'est un auteur trop discret, qui aime les gens, qui aime s'arrêter devant les petites choses de la vie. Il avait écrit un livre que j'adore qui s'appelle « La serveuse était nouvelle ». Et franchement, il était là dans son café, comme ça, puis il la regardait passer. Oui. C'est une autre forme d'amour. Et là, en fait, cet observateur des cafés, des banlieues, des rues, eh bien, il raconte sa dernière année de prof avant de prendre sa retraite. Et surtout, ce qui est très beau, c'est qu'il n'est pas négligent, il n'est pas méprisant. Il aime ses élèves, il est content de les retrouver dans la rue, de discuter avec eux, de raconter les coulisses. Et surtout, il a une autodérision merveilleuse, c'est-à-dire que c'est un prof qui est toujours un peu fatigué, Dominique Fabre. Alors, parfois, il s'endort un peu et les élèves viennent lui dire « Monsieur, c'est on est en cours, quoi, en fait. » Et c'est donc très mélancolique, il aime plus les élèves que les profs, il n'aime pas tellement la direction non plus. Et cette rencontre, cette proximité avec eux, il le dit par une écriture qui est toujours très simple, très sobre, très belle. Il est en train de les regarder de très près. Et cette empathie, cette délicatesse fait que ces élèves un peu perdus, ces enfants perdus de la République, comme disait l'autre, eh bien c'est comme un poème.
Et ça s'appelle « La jeunesse est un cœur qui bat » de Dominique Fabre et c'est publié chez Arléa. Théodore Dillerin, vous avez choisi « Diable blanc » de James Robert Baker et c'est publié chez Monsieur Toussaint. L'ouverture avec à chaque fois des couvertures absolument dingues.
Ouais, celle-ci absolument magnifique.
Pourquoi ce choix « Diable blanc » de James Robert Baker ?
Simplement parce que c'est un banger.
C'est quoi un banger ?
C'est un livre qu'il faut lire absolument... une chose à côté de laquelle on ne peut pas passer. Petit mot sur le contexte. Déjà, James Robert Baker, c'est un type qui est né dans les années 40, figure de la contre-culture américaine. Il n'a jamais été traduit en français jusqu'à présent. Il est né dans une famille ultra républicaine, conservatrice en Californie, très étouffante. D'ailleurs, pour la petite histoire, son père avait engagé un détective privé quand il avait 19 ans pour vérifier qu'il était bien homosexuel. Et effectivement, c'était le cas. Et il va s'inspirer de son père pour un personnage absolument détestable de ce livre. En 93, il publie un roman, Tim and Pete, qui est queer sur les années Sida, qui va choquer l'Amérique puritaine. Et à partir de là, l'auteur, James Robert Baker, est mis au banc par le monde éditorial. Il essaiera de faire publier encore 4 livres derrière. Il n'y arrivera pas. De désespoir, à 50 ans, il se suicide.
En 1997.
Exactement, 97 à 50 ans. Et parmi ces 4 livres qu'il a essayé de faire publier après, il y a celui-ci, Diable Blanc. On va suivre un couple, Tom et Bess Dunbar. Alors lui, c'est un auteur qui a connu un premier succès en faisant un true crime, vous savez, ces livres qui reprennent une affaire judiciaire qui a défrayé la chronique. Ensuite, il a fait un roman plus littéraire qui a fait un flop complet. Elle, sa femme, Bess, elle a dépensé toute leur fortune en essayant d'ouvrir un restaurant concept. Bref, ça n'a pas marché. Et le risque qu'ils ont, c'est de perdre leur magnifique maison dans un quartier huppé de Los Angeles. Et pour ça, il faut trouver de l'argent. Et il se trouve que le père de Bess, c'est un auteur, alors qui lui a un succès monstrueux, qui est un type détestable, inspiré du père de l'auteur, vulgaire, raciste, qui fait des romans d'espionnage mêlant tout ça, on pense à SAS. Et elle va demander à Tom de convaincre le père de donner de l'argent. À partir de là, je vous en dis pas beaucoup plus parce que celui-ci va refuser et un mécanisme sanglant va se mettre en place. Petite originalité dans la narration, c'est que ce roman, c'est la transcription de 7 cassettes que Tom, le personnage, enregistre et qu'il envoie à un ami écrivain en lui disant « Ok, bon, la situation nous a échappé, on a fait n'importe quoi, je te raconte tout pour que toi, tu puisses en faire un livre. » Mais c'est un vrai thriller qui est impossible à lâcher, une satire sociale acerbe qui détruit, qui défonce le mythe américain et une certaine élite californienne de parvenus. On lit Truman Capote pour le True Crime, du Bret Easton Ellis, on imagine Tarantino, bref, c'est une bombe absolue, écrite en 94 et traduite pour la première fois.
Non, non, Guimet, vous ne l'aurez pas.
J'en ai marre que cette phrase tombe à chaque fois qu'un livre me tente.
Je te le donnerai.
Ça s'appelle Diable Blanc de James Robert Baker et c'est publié chez Monsieur Toussaint l'ouverture avec une traduction de Yoko Lacour. Christy Lapéville, on va rire un peu avec Comédie française de Charlie Gégondet. C'est publié aux éditions La Tribu. Pourquoi ça vous a fait du bien?
Oh, ça m'a fait rire, mais j'ai tellement ri en lisant ce livre. J'ai ri un peu partout, dans le métro, dans le train, chez moi. J'ai ri du début à la fin. C'est un premier roman. Ce Charlie, qui est par ailleurs directeur d'une école maternelle, n'avait jamais écrit. Enfin, il a écrit, mais jamais publié. Et là, non mais franchement... Alors, je ne sais pas s'il est le fils caché de Daniel Pénac et de Raymond Queneau en même temps. Mais je vous assure que je vous conseille de le lire si vous avez le moral un peu dans les chaussettes. Alors, tout se passe, tout se concentre dans un grand ensemble de logements sociaux dans la banlieue nord. Moi, j'ai imaginé que c'était à Montreuil. Je pense qu'il y a du Montreuil là-dedans. Et là, vivent un certain nombre de gens bizarres, où il se passe des choses étranges, mais pas que. Et en particulier, deux copains qui portent des surnoms. Alors, il y en a un qui s'appelle Requin, on imagine que c'est à cause des chaussures, et l'autre s'appelle Zizou, parce qu'il est complètement dingue de foot, bien entendu. Et là, il bricole des petits trucs lamentables, des petits... Et le député du coin veut raser la merveilleuse cité. Bon, il va s'en suivre un imbroglio de situations toutes plus dingues les unes que les autres. Évidemment, c'est une critique sociale. Mais le truc, mais cette observation de ces jeunes dans cette cité qui
Le titre. Non, parce qu'on n'a plus beaucoup de temps.
Bon, alors, le titre, c'est Comédie française et j'ai pas le temps de vous expliquer pourquoi. Tant pis, lisez-le.
C'est Charlie Gégondet et c'est publié à La Tribu. Adeline Baldacchino, vous avez envie de partager un recueil de nouvelles. Ça s'appelle Nager dans les étoiles de Kanishke Taror, publié au Seuil. Kanishke Taror, écrivain, journaliste politique et culturel, ancien élève des universités Yale et Columbia. Expliquez-nous pourquoi ce choix.
Alors, c'est vraiment une découverte de la sérendipité, comme on dit, le hasard, un cadeau de mon amoureux, il a bien fait de l'offrir, il s'est dit que ça allait me plaire, parce qu'il a vu ce titre, Nager dans les étoiles, un peu poétique, un peu étonnant. C'est un recueil qui est quelque part entre Borges, Rushdie et les Mille et Une Nuits, pour vous le situer en termes d'atmosphère. C'est de l'imagination pure, parfois quasiment surréaliste, mais chaque nouvelle se lit comme une sorte de petite vignette qui nous embarque dans un univers qui est à la fois très beau, parfois très émouvant. La première, c'est deux ethnologues qui vont récupérer les derniers mots, les mots d'une langue, de la dernière représentante d'une langue en voie de disparition. Et c'est dans cette langue-là que l'astronaute se dit la nageuse dans les étoiles qui donne son titre au recueil. Mais il y a des choses aussi plus politiques, assez cocasses, avec par exemple les diplomates de l'ONU qui se retrouvent en orbite alors que la Terre est à feu et à sang parce qu'il y a des tsunamis partout et en plus des guerres, ils n'arrivent plus à redescendre. Et on leur dit qu'ils vont aller à Gaborone, la capitale du Botswana, et en fait à ce moment-là arrive une tempête effroyable. formidable. Et ils se retrouvent là-haut, ils n'ont plus grand-chose à faire à part l'amour. Et c'est très étonnant. Et puis, il y a des rencontres, alors encore plus rêveuses, entre Alexandre le Grand et une baleine morte. On y croise l'arbre Wakwa, qui est un arbre de la mythologie orientale absolument extraordinaire, dont les fruits sont des têtes. Bref, on est dépaysé très très vite, en quelques pages. C'est très finement écrit, ça ouvre grand les vannes de l'imaginaire. Et donc, c'est pour ça que je trouve que ça vaut la peine d'aller retrouver ce recueil, qui date en fait de 2017, mais qui est une magnifique découverte.
Ça s'appelle « Nager dans les étoiles » de Kanishk Taror et c'est publié au Seuil. Christine Ferniaud, un joli livre de recettes. Ça s'appelle « Toutes les saveurs du jardin » de Pascal Garbe. C'est publié chez Ulmer.
Alors c'est à la fois un livre de recettes et surtout un livre de jardinage et de jardin. En fait, Pascal Garbe, il est le jardinier des grands cuisiniers comme Michel Brasse ou Olivier Rollinger. C'est vous donner une idée du jardin de Pascal Garbe et des jardins qu'il a fabriqués, créés pour eux, parce que si on a la chance d'aller manger chez eux, on s'aperçoit que les fleurs, les fruits, les herbes, tout est là. Et le gargouillou de Michel Brasse est un rêve inatteignable pour chacun d'entre nous. Donc ce sont des jardins comestibles, des jardins qui se mangent. Et je trouve ça formidable. C'est tellement poétique de dire que je vais aller manger mon jardin en descendant chercher toute la beauté du monde. Donc il donne des clés pour faire le jardin. D'abord, on n'a pas besoin d'avoir un grand jardin et même on peut avoir un bout de fenêtre et essayer d'avoir un mini jardin de Pascal Garbe en suivant ses conseils, en resserrant beaucoup les fleurs en quelque sorte. Donc il y a la méthode de culture, il y a la façon de le soigner. Et puis, c'est une manière aussi de cuisiner des saveurs qui sont à la fois piquante, poivrée, acidulée, sucrée, mielée, et on va faire des fleurs farcies, on va faire des infusions évidemment. Un autre gargouillou sucré de Pascal Garbe, une tartine d'aubergine et tomate avec des graines germées que je vous conseille vivement, et le sommet du sommet.
Calmez-vous, pardon. Théodore Dillerin, il ronronne au micro.
Mais c'est ça, alors, il y a le flower burger et la tarte aux fleurs. Et la tarte aux fleurs. C'est tout simple à faire. C'est d'une beauté. Mais ne pleurez pas tous. Je n'ai rien apporté que le livre.
Ça s'appelle...
J'ai quelques photos, c'est tout, à vous montrer. Regardez radio, les photos.
On est à la radio, Christine. On est à la radio.
Non, mais c'est pour nous.
Ça s'appelle « Toutes les saveurs du jardin » de Pascal Garbe et c'est publié chez Ulmer. Il nous reste une poignée de secondes. Est-ce qu'il y a un dernier conseil en quelques secondes, peut-être, Théodore Dillerin?
Ouais, c'est Dorothée Letessier, Le voyage à Paimpol, publié dans la collection L'Imaginaire de Gallimard. C'est un livre qui a plus de 40 ans, qui est sorti en 80 et qui est ressorti l'année dernière. En deux mots, c'est l'histoire d'une femme qui est ouvrière à l'usine de Saint-Brieuc, déléguée syndicale. Elle en a marre de la charge de travail qu'elle a sur les épaules. Elle en a marre de la charge mentale au foyer, parce qu'elle est mariée, elle a un gamin. Elle décide de tout quitter pour 3 jours. Elle prend un billet de bus, elle va pas loin, elle fait 40 km, Saint-Brieuc, Paimpol, pour prendre du temps pour elle. Juste ça. Est-ce qu'elle arrive vraiment à le faire et à se décharger de la charge mentale? Je ne sais pas, on le verra. C'est formidable, c'est un texte très court à la croisée de la littérature prolétarienne et féministe. C'est génial.
Et ça s'appelle
Le voyage à Paimpol de Dorothée Letessier.
Adeline Baldacchino, un dernier, juste,
un
en quelques mots.
Un tout dernier, du fond des océans, les montagnes sont plus grandes. C'est une sorte de reportage d'aventure extraordinaire.
C'est
de Corinne Morel-Darleux et vous saurez pourquoi la ménopause des orchestres est tout à fait rassurante et intéressante. Est-ce qu'est l'effet canopée?
Christina, en un mot.
Une BD formidable, vivante, de Marie Brune, une épopée au pays du trauma. Et si vous voulez tout comprendre pourquoi il y a cette espèce d'imbécile qui est sur votre épaule et qui vous dit tout le temps que vous êtes nul, et si vous voulez arriver à vous en sortir, lisez-le, c'est formidable, intelligent, utile.
Redonnez le titre.
Vivante, l'auteur s'appelle Marie Brune, une épopée au pays du trauma, et c'est aux éditions Point Nemo.
Allez, rassurez-vous, si vous n'avez pas eu le temps de noter les titres des livres, la sélection est disponible sur l'appli Radio France et sur la page Facebook de Grand Bien Vous Fasse. Dans un instant, la punchline philo de Thibaut de Saint-Maurice, l'une des célèbres phrases de Machiavel. Il est beaucoup plus sûr d'être craint que d'être aimé. On se retrouve juste après avoir écouté Harry Styles qui interprète Aperture.
Take no prisoners for me, I'm told you're elevated.
Style s'interpréter à Aperteur.
Philosophie,
France Inter,
comme le dit Descartes, c'est d'abord douter de tout.
Grand bien vous fasse.
Et donc douter du doute, et donc douter que philosopher, ce soit douter de tout.
Alors ce matin, Thibaut de Saint-Maurice, vous vous attaquez à un monument de la pensée politique, une citation de Machiavel. Il est beaucoup plus sûr d'être craint que d'être aimé.
Alors oui, Alice, c'est la punchline qui a fait de Nicolas Machiavel l'homme qu'on adore détester et qui, sans nul doute, a contribué à la construction de l'adjectif machiavélique. Machiavel, en effet, conseille ici pour quiconque veut rester au pouvoir, hein, n'écoutez pas Alice, ça n'est pas pour vous, de se faire craindre plutôt que de se faire aimer. C'est beaucoup plus sûr, dit-il. Voilà bien donc ce qui bouscule franchement donc, notre morale, notre idéal du chef bon et juste, comme vous, Ali, avec toute notre conception de la politique. Ce qui choque, c'est que spontanément, le fait de vouloir être aimé nous paraît être le seul et l'unique objectif pour quiconque exerce le pouvoir, car l'amour, c'est le lien, la confiance, le respect et une certaine promesse donc de vivre ensemble. N'est-ce pas pour ça d'ailleurs que les hommes politiques qui nous dirigent sont si soucieux de leur cote de popularité. Alors comment Machiavel peut-il renverser la table et transformer ainsi la crainte en vertu politique ?
Sans doute parce que Machiavel écrit son livre Le Prince en 1532 dans une Italie qui ne cesse de se déchirer.
Mais oui Ali, quelle précision, quelle connaissance, quelle culture, quelle érudition. Exactement, pour comprendre ce qui se joue là, il faut se souvenir que Machiavel essaye de conseiller des princes qui ne cessent pas donc de se faire la guerre. Et à cette époque, la politique est encore pensée à travers le prisme donc de la religion ou de la morale, on croit encore que pour être un bon prince, un bon dirigeant, il faut d'abord être un homme bon, juste, généreux et pieux. Machiavel, lui, observe la réalité brute. Il voit de bons princes, des dirigeants qui essayent de tout bien faire, d'être vertueux justement, et pourtant se faire renverser donc, en 15 jours et devoir les cités hein, qui sont envahies et saccagées par manque de fermeté. Son conseil n'est donc pas une provocation, un appel à la méchanceté pure, mais un conseil de survie pragmatique. Dans un monde violent et gouverné par les intérêts plus que par les idéaux, les hommes bons
perde le pouvoir. Si on veut le garder donc, et d'une part pour limiter le désordre de la valse des dirigeants, et puis d'autre part bah, pour ne pas être empoisonné, trucidé ou ce que vous voulez, Machiavel conseille donc d'abandonner la morale au profit d'un certain réalisme politique. Tout son argument repose sur un constat psychologique assez trivial, les hommes ne suivent que leurs intérêts. Or, l'amour est un lien de reconnaissance qui repose sur la volonté de l'autre. Mais comme on ne contrôle pas ce que les autres ressentent, eh bien, on peut être aimé aujourd'hui et détesté demain, si le vent tourne ou si l'intérêt change. L'amour est fragile car il dépend du bon vouloir d'autrui. En revanche, la crainte, elle, repose sur quelque chose que le prince peut maîtriser ou gouverner, la peur de la punition. En d'autres termes, vouloir être aimé, c'est un pari risqué. Vouloir être craint, c'est un choix beaucoup plus sûr. Et c'est ici donc que naît la science politique moderne comme un gouvernement de la peur pour contrôler des intérêts et non plus comme un idéal de justice. Alors un tel conseil, bien qu'étant donné par Machiavel, est-il pour autant machiavélique? Est-il pour autant entièrement méchant et manipulateur? C'est là qu'il faut nuancer. Parce que Machiavel conseille de régner par la terreur, certes, mais pas par la haine ou par la violence. La limite peut paraître fine, mais elle est essentielle. Car à susciter la haine, le prince provoquerait exactement les mêmes conséquences que s'il voulait régner par l'amour. La haine est un sentiment qui entraîne les révoltes et les complots, là où la crainte, la seule crainte, peut finir par inspirer une forme de respect à force de maintenir l'ordre. Il ne faut donc pas chercher à être aimé de tous, car c'est impossible et donc inefficace. À défaut d'être raisonnable, la sagesse politique de Machiavel est rationnelle, elle cantonne la politique à l'intérêt et laisse à la morale tout le reste de nos vies.
Mais qu'est-ce que j'aurais aimé avoir Thibaut de Saint-Maurice en prof de philo oui. terminale.
Mais vous n'en avez pas besoin.
Il continue.
Les punchlines philo de Thibaut de Saint-Maurice à podcaster sur l'appli Radio France.
Il est presque aussi brillant que vous.
Allez, je suis très très gêné. Merci aux amis du vendredi, Thibaut et Guillemette. Merci Christine Appelé-Douel, Christine Ferniaud, Théodore Dillerin. On vous retrouve dans notre librairie Le Comptoir des mots à Paris. Aline Baldacchino, on vous retrouve à la Cour des comptes. Merci. Merci à Cyrine Ben-Younes, Anna Massardier et Joseph Pascal pour la programmation avec la collaboration de Noé Brabant à qui j'adresse à nouveau mes voeux de réussite après son excellent stage dans notre équipe. Merci à Claire Destacan, la réalisation ce vendredi, et à Étienne Bertin le reste de la semaine. Merci à Valentine Chedebois pour la programmation musicale. À la technique ce matin, Noé Chaban.